Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Nous sommes le 5 septembre et c'est un jour important pour les bacheliers et autres candidats à entamer ou à reprendre des études supérieures. C'est ce soir la fin de la phase principale de Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme d'orientation dont l'algorithme distribue les affectations dans l'enseignement supérieur. Les futurs étudiants ont vécu leur été au rythme de leurs admissions, pour les plus chanceux, ou pour les autres de leur évolution sur les listes d'attente des formations auxquelles ils étaient candidats, avec les difficultés matérielles liées au logement, par exemple, qui vont avec. Ils sont encore plusieurs milliers à être sans solution. Parcoursup, succès ou échec, c'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Lila Lebas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, qui est le plus important et le plus ancien syndicat étudiant en France. Et Jérôme Teilhard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de projet en charge de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Alors on a eu, comme je le disais, des évolutions chiffrées pendant tout l'été, hein, depuis les résultats du bac et depuis la mise en place de Parcoursup. À quelques heures de la fin de la phase principale, où est-ce qu'on en est, Jérôme Teilhard ?
Alors, on en est, la procédure avait commencé au mois de mai, pour l'ensemble des candidats inscrits sur Parcoursup. Aujourd'hui, près de 600 000 candidats ont accepté une proposition et sont en cours, inscrits déjà, et pour certains déjà dans les enseignements.
Oui, il y a des classes prépa qui ont commencé, par exemple.
Absolument. Ouais. Et puis d'autres sont en train de s'inscrire, notamment, je pense, dans les universités. Et puis nous avons des candidats, alors qu'on considère actifs, puisque nous les avons sollicités, ils nous ont manifesté le désir de s'inscrire dans une formation sur Parcoursup en septembre. Ils sont aujourd'hui 3674 lycéens, au total, pour d'autres qui sont par exemple des étudiants en réorientation, ils sont de l'ordre moins de 8000 aujourd'hui, et nous les accompagnons, et nous les accompagnerons au-delà du 5 septembre, pour trouver une place avec eux.
Alors, Lila Lebas, est-ce que cette présentation vous convient ou est-ce que vous la contestez ?
Il n'y a pas question de contester. En revanche,
il y a
différentes interprétations des chiffres effectivement qui est donnée par le ministère, puisque si on parle de plus de 7700 jeunes qui n'ont pour l'instant aucune proposition d'inscription, on en oublie du coup beaucoup quand on parle uniquement de 7000, puisqu'on a 40000, à peu près 39000 jeunes qui sont considérés comme inactifs, comme ça a été dit par le ministère de l'enseignement supérieur.
Alors, ça veut dire quoi exactement ?
Ce qui est particulièrement problématique,
inactif.
Justement,
oui,
c'est des jeunes qui soit n'ont pas sollicité le rectorat, les commissions rectorales, alors qu'ils sont en attente, soit n'ont pas forcément répondu aux mails envoyés par Parcoursup. Mmh. Sauf qu'on voit bien que dans les différents témoignages qui remontent d'étudiants qui sont encore en attente sur la plateforme, il y a des jeunes qui sont considérés comme inactifs alors qu'ils continuent à chercher à vouloir s'inscrire dans l'enseignement supérieur.
C'est
par exemple des jeunes qui sont deuxième, troisième sur liste d'attente, qui n'ont pas forcément répondu, qui n'ont pas forcément contacté le rectorat parce qu'ils pensaient avoir une proposition, et ils sont considérés comme inactifs, ce qui est pour nous problématique.
Jérôme Teilhard.
Alors, je veux redire, ces indicateurs-là, ils ont été construits précisément parce qu'on a mis en place un dispositif d'accompagnement et qu'on est dans un dialogue avec les candidats. Auparavant, il n'y avait pas de dialogue et il n'y avait pas d'accompagnement. Donc, il y avait un chiffre, mais sans savoir quels étaient les désirs et les souhaits des candidats.
Le système précédent qui s'appelait admission post-bac, APB.
Absolument. Et puis, chacun des candidats, à titre individuel, peut s'inscrire. C'est-à-dire que, par exemple, si un candidat est inactif, il peut, depuis le 26 juin, et nous l'avons sollicité, nous l'avons encouragé, à s'inscrire dans la phase complémentaire. Qu'est-ce que c'est, la phase complémentaire ? C'est un dispositif parallèle qui permet d'offrir des places vacantes. Ce sont aujourd'hui plus de 6000 formations qui sont disponibles sur cette phase complémentaire, accessibles à ces candidats-là, et on y trouve des formations de licence, mais on y trouve aussi des formations demandées, comme des BTS, on y trouve des places dans les PACES pour la médecine, on y trouve des places en STAPS, et c'est tout ce travail que l'on fait de médiation avec les candidats qui se manifestent auprès de nous pour les conseiller sur la manière de lire les places qui sont disponibles.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Est-ce qu'il y a des places qui vont se libérer ? On va y voir un petit peu plus clair. Il y a les places qui étaient réservées de manière optionnelle par certains étudiants qui étaient déjà inscrits dans d'autres endroits qui vont se libérer. Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, je veux le redire, en fait. Sur Parcoursup, on n'occupe toujours qu'une seule place. Donc, des candidats qui ont maintenu des vœux en attente n'occupent pas plusieurs places. Ils ne bloquent pas le système. Je pense qu'il faut le redire, parce que c'est important dans la compréhension du dispositif.
C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ou beaucoup lu. Hein.
Mais nous avons dit le contraire depuis le début, et après, il y a des commentaires, je les entends, mais simplement, ce que je redis, donc ces candidats qui maintiennent des vœux en attente n'occupent pas plusieurs places, donc ils ne libèrent pas de place. Ce que l'on a vu depuis ces derniers jours, les candidats qui sont actifs, ce sont plus de 8000 candidats qui ont trouvé une solution déjà depuis le 20 août. Donc ça s'est accéléré, et pourquoi ? Parce que l'on a des inscriptions, et des candidats qui a été admis dans une formation, en fait, ne viennent pas s'inscrire. Et c'est ce mécanisme qui libère des places.
Lila Lebas, vous constatez que le système est peut-être parfois un petit peu grippé, qu'il y a des places qui sont pas libres et qui finalement le sont, enfin, ou inversement d'ailleurs.
Le système est grippé, oui, pour plusieurs raisons. Déjà, puisque Parcoursup, de par la loi orientation et réussite des étudiants, duquel il découle, instaure une forme de sélection à l'entrée de l'université qui n'existait pas avant, et on en voit directement les conséquences aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est ça que vous
dites? Il y a une question de place, mais aussi une question de tri des dossiers, de comment ce tri des dossiers est effectué chez les bacheliers, chez les étudiants en réorientation, puisque dorénavant, chaque université opère un classement des dossiers, d'ailleurs avec plus ou moins d'opacité selon les établissements et selon notamment les universités, puisque c'est là la nouveauté, c'est pas pour les autres formations. Et donc, on a effectivement à la fois une sélection qui s'opère pour la première fois cette année, à l'entrée de ces formations, et par contre, un manque de place qui n'est pas nouveau pour le coup, qui n'est pas seulement dû à cette année, il y a eu des créations de places, mais ce n'est pas suffisant, puisque depuis, on a un baby-boom des années 2000, donc on a un nombre de jeunes qui est plus nombreux, qui aurait pu être anticipé, puisqu'ils sont allés à l'école primaire, au collège, au lycée, ces jeunes-là, et pourtant, on n'a pas ouvert les places nécessaires dans l'enseignement supérieur, ni mis l'investissement nécessaire pour les accueillir dans des bonnes conditions. Et il y a un moment, ça bloque, ça fait déjà plusieurs années, et cette année, c'est la même chose, la rentrée est déjà commencée, et même si on prend le chiffre minimum, 8000 jeunes sans aucune proposition, c'est aujourd'hui pas acceptable, alors que la rentrée a commencé aussi dans les universités.
Jérôme Teilhard, Parcoursup, c'est une forme de sélection qui ne dit pas son nom? C'est ce qu'on est en train de vous reprocher, là?
Qu'on entende ce discours, il s'est construit avant même que Parcoursup se mette en place. Moi, ce que je veux redire, c'est Parcoursup, c'est une logique d'accompagnement pour créer un parcours sécurisé entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Quelle est la réalité qu'on avait sur APB, indépendamment de l'outil? C'est très peu d'accompagnement, et cette année, on a un deuxième professeur principal pour s'occuper des élèves et les conseiller. On a très peu d'orientation et d'organisation de l'orientation, et on a mis en place des semaines de l'orientation au lycée, et avec la réforme du baccalauréat, on aura une amplification de ce temps consacré à l'orientation et au choix. Et puis, un parcours qui permet aussi d'identifier à la fois mieux quels sont les attendus des formations de l'enseignement supérieur, ne pas s'inscrire en fait au hasard, ne pas être contraint, comme c'était le cas sur l'APB, de faire des choix forcés, des choix contraints sur des licences dans lesquelles on ne va pas s'inscrire finalement, mais simplement parce que l'outil vous le demandait, et puis des choix à l'aveugle. Ce que l'on fait, c'est des choix qui veulent éclairer, des choix qui sont motivés, et puis des choix qui sont pas forcément ceux guidés par sa filière. Je rappelle que une des nouveautés de cette année, c'est de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. On peut être un jeune en bac technologique, avoir une envie d'aller dans une filière scientifique parce qu'on avait une vraie motivation, et on peut avoir de ces filières eh bien un accompagnement avec des remises à niveau qui vous permet de réussir, parce que l'objectif
des classes passerelle, en fait, c'est
pas des classes passerelles. Là, c'est vraiment un dispositif qui vous permet. Vous faites un choix, vous êtes accepté dans une formation, mais vous avez des dispositifs de remise à niveau. Remise à niveau, ça peut être sur des matières en particulier, je sais pas, scientifiques, littéraires, mais ça peut être aussi en termes de méthode. Apprentissage de la méthode de travail, parce que vous le savez, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, il y a un fossé, il y a une étape d'autonomie à franchir, et ce que l'on n'avait pas ces dernières années, c'était cette étape. Et donc, ce sur quoi Parcoursup entend lutter, c'est l'échec en licence. Il entendait aussi lutter contre le tirage au sort qui s'est mis en place par le manque de place, et on a créé cette année 31 000 places pour accompagner la démographie, et il y a un plan sur les 5 prochaines années pour amplifier ce mouvement, pour tenir compte de l'évolution des demandes des candidats.
Lila Lebas, je reviens sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, et en parlant de sélection déguisée, est-ce qu'on peut parler d'élitisme? Est-ce que c'est pas logique, quelque part, quand même, que les élèves qui ont les meilleurs dossiers, les meilleurs élèves, les meilleures notes, soient servis les premiers? Je sais pas, je pose la question de manière totalement béotienne.
Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le rôle de l'enseignement supérieur, notamment de l'entrée à l'enseignement supérieur, et en particulier, je précise, de l'université, parce que l'université n'est pas l'ensemble de l'enseignement supérieur. Il y a déjà des filières sélectives dans l'enseignement supérieur, les BTS, les IUT, les classes préparatoires, des écoles publiques. qui peuvent être sélectives. En revanche, avant, l'université permettait à un certain moment de rebattre les cartes, c'est-à-dire que des jeunes qui avaient fait un bac techno, un bac pro, un bac général, mais dans une filière qui ne leur correspondait pas véritablement, l'université, puisqu'elle était libre d'accès avec le baccalauréat, permettait à ces jeunes de pouvoir tout simplement accéder à une filière qu'ils avaient choisie pour réaliser leur projet d'orientation. Le seul défaut, c'est qu'on ne permettait pas à ces jeunes de réussir, particulièrement les plus fragiles. Et que depuis ça, on s'en est servi comme étendard pour dire ces jeunes-là ne réussissent pas, les bacs techno, les bacs pro par exemple, et donc du coup, ils n'ont pas véritablement leur place à l'université, et donc il faut les orienter plus spécifiquement vers des filières courtes, puisque c'est ça que leur baccalauréat les prédestine. Et c'est ça, pour nous, la grande différence. Aujourd'hui, ça a été dit, on demande des lettres de motivation, on prend en compte les notes du baccalauréat, et c'est par rapport à ça qu'il y a un classement qui est fait. Et donc, les 8000 jeunes qui sont en attente, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux, effectivement, qui sont les moins favorisés, qui ont les moins bonnes notes, et qui n'ont pas le droit de choisir.
Jérôme Théillard, une sorte de tri social à l'entrée de l'université ?
Je voudrais revenir sur ce procès de la sélection. Un, si on avait voulu sélectionner, on ne créerait pas 31 000 places pour accompagner le mouvement de la démographie. Deux, on ne créerait pas des dispositifs d'accompagnement, c'est plus de 8 millions d'euros déjà versés aux universités pour créer ces dispositifs d'accompagnement. Et trois, ce que l'on entend de ces bacheliers professionnels et ces bacheliers technologiques, c'est précisément la volonté d'aller dans des filières courtes, d'aller dans des BTS, d'aller dans des IUT. Et ce que l'on a fait pour la première fois, c'est de mettre en œuvre une forme de priorité pour ces bacheliers. La ministre fera un point d'étape et elle aura l'occasion de dire quelle est la réalité de l'évolution que l'on constate. Mais ce que je vois, moi, quand je regarde ces candidats-là qui sont bacheliers professionnels et technologiques, la priorité qu'ils ont, c'est d'aller vers des filières où ils savent qu'ils peuvent réussir. Et ce sont les filières courtes, BTS, IUT. Oui, mais lorsqu'ils souhaitent aller à l'université, ils le peuvent. Moi, je n'accepte pas ce procès consistant à dire que l'on aura interdit d'accéder à l'université. Au contraire, simplement, ce qu'on va faire, c'est l'accéder dans des bonnes conditions. Un, accéder lorsqu'on a un projet qui est motivé, et c'est pas simplement pour contraindre l'élève, c'est simplement pour qu'il ait ce travail de maturité autour de son projet pour aller dans une filière dans laquelle il veut réussir. Et deux, on l'accompagne à travers des dispositifs qui vont lui permettre de franchir l'étape de l'accès à l'enseignement supérieur et d'y réussir.
Est-ce que il faut faire davantage, selon vous, Lila Loba, pour que ces élèves qui sont fragiles, c'est vous qui avez employé ce terme, puissent davantage accéder à des parcours dans l'enseignement supérieur?
Oui, évidemment, puisque pour nous aujourd'hui, c'est l'étape laissée pour compte de l'enseignement supérieur. Ceux qui veulent aller dans les filières courtes, c'est leur choix. Évidemment qu'il faut leur permettre d'y aller. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à une sélection qui existe depuis des années dans ces BTS, dans ces IUT. Et donc parfois, c'est ces jeunes-là, d'ailleurs, qui sont pour beaucoup, qui ont subi une attente très longue via Parcoursup, qui ne sont pas pris dans ces filières-là et qui, du coup, ne peuvent pas réaliser leur projet d'études. Et quand ces mêmes jeunes ne veulent pas aller en filière courte, mais veulent aller à l'université, cette fois-ci, on se dédouane de la responsabilité de pouvoir faire réussir et de mettre en cause des bonnes conditions d'études. Et ça, c'est quand même important aujourd'hui. Et malheureusement, ce que révèle ces chiffres d'attente sur Parcoursup, c'est que c'est justement ces jeunes-là qui sont, encore une fois, les laissés pour compte, qui sont sur attente, qui n'ont pas les places qu'ils souhaitent, soit à l'université, soit dans les filières type plus courtes, BTS, IUT. Et quand on se retrouve orienté par défaut, comment réussir à l'université? Et je voudrais juste revenir sur quelque chose. On dit il faut un projet motivé des étudiants, et on prend en compte les lettres de motivation, les CV, les expériences, etc.
Mais est-ce qu'il faut projet d'orientation qui soit construit?
Moi, je pense, attention, quand on a 17, 18 ans, je pense qu'on peut aussi réfléchir comment l'enseignement supérieur permet de construire et de continuer à construire un projet d'orientation. Je ne pense pas qu'à la fin du baccalauréat, on doit mettre un couperet entre un jeune qui a un projet défini, qui doit pouvoir accéder à la filière de son choix, et un jeune qui se pose des questions et qui veut se dire « ça m'intéresse, ça aussi, comment je peux réaliser mon projet professionnel avec différents parcours ?»
Jérôme Théillard, Parcoursup permet quelque part ce droit à l'erreur, on peut s'orienter dans une filière et s'apercevoir que c'est pas pour soi.
Il faut pas se mentir. Le tri social, c'est celui qui a été fait par l'échec. Par l'échec en licence, dans lequel des jeunes vont dans des filières qu'ils ne connaissent pas et dans lesquelles ils échouent. Ça, c'est le tri social qui se fait, parce qu'il est extrêmement discriminant et on n'en parle pas. Là où il n'y a pas de tri, c'est qu'un, on accompagne ces candidats. Quand le travail sur la motivation, il n'est pas fait de manière seule, il est fait avec des enseignants. Il y a un deuxième professeur principal qui a été mis en place cette année. Et moi, je retiens de cette année vraiment l'investissement de l'ensemble des professeurs pour accompagner les élèves. Deux, on met en place des dispositifs d'accompagnement pour pour que ceux qui souhaitent aller dans l'enseignement supérieur, à l'université, dans des filières pour lesquelles ils n'étaient pas forcément préparés, mais parce que c'est leur goût, leur intérêt, et qu'ils ont un vrai projet motivé, on a les moyens de les accompagner à travers ces dispositifs personnalisés. Dernière chose, dans les candidats que l'on voit là, qui sont actifs, ce sont des candidats qu'on ne voyait pas auparavant dans un accompagnement. Ils ne revenaient pas, finalement, ils abandonnaient leur projet d'accès à l'enseignement supérieur. Là, on a des candidats qui sont motivés parce qu'ils cherchent, ils souhaitent être accompagnés. C'est évidemment plus difficile. C'est évidemment la première année qu'on met en place ce type d'accompagnement. On doit s'adapter à la demande de l'offre qui bouge. Il faut le dire, il y a eu un accroissement de l'offre vers les filières courtes.
Et justement, les établissements d'enseignement, ils en pensent quoi ? Est-ce que toutes les formations sont pleines ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des chefs d'établissement qui se rendent compte qu'ils ont la moitié de leurs élèves qui sont inscrits ? Ou enfin, Lila Leba, vous avez des retours là-dessus ?
On n'a pas l'ensemble des éléments et l'ensemble des chiffres. C'est plutôt le ministère qui les a de ce côté-là. En revanche, effectivement, de par des témoignages qui sont remontés, on a des formations qui ne sont pas complètes, mais ce qui n'est pas anormal, étant donné le nombre de jeunes encore aujourd'hui. Donc on verra effectivement demain avec la fin de la procédure, la première phase de Parcoursup, mais avec à la fois le nombre de jeunes, les 71 000 jeunes qui ont eu une proposition mais qui n'ont pas accepté définitivement, ça veut dire que ça laisse des places dans les universités, à la fois les jeunes qui n'ont pas de proposition encore, c'est pas normal qu'ils restent des places. Mais du coup, l'enjeu, c'est que ça se retrouve bien dans la procédure complémentaire et que on puisse se permettre à tous ces jeunes-là qui sont en attente de trouver une formation. En revanche, si on fait le total, ce qu'on rend compte, c'est que le vrai cœur du problème, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'on manque de place en global dans l'enseignement supérieur et notamment à l'université pour accueillir ces jeunes. Sinon, l'attente serait effectivement moins longue.
Question de moyens. Donc, principal reproche qui a été fait à Parcoursup, Jérôme Teilhard, c'est la longueur de la procédure. Attendre tout un été, c'est quand même long et stressant. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pistes d'amélioration là ?
On n'a jamais nié le fait qu'il puisse y avoir des pistes d'amélioration. Quand on fait des politiques quand on fait des politiques publiques, ça prend du temps parce qu'on modifie les pratiques. Revenons aussi sur pourquoi on a fait cette réforme. Cette réforme, elle a été faite parce qu'il y avait un choix qui se faisait par un algorithme, et l'algorithme ne vous permettait pas de revenir sur votre décision. C'est-à-dire, vous aviez une proposition, vous l'acceptiez, vous démissionnez. C'était ça l'alternative. Aujourd'hui, on a des candidats qui ont pu changer d'avis, qui ont pu changer de formation, et ça, c'est une vraie réalité. Elle existait déjà auparavant, mais on la prenait pas en compte, et cette année, on la prend en compte. On a entendu l'angoisse, et je peux la comprendre, moi. J'ai été étudiant aussi, et je mesure bien quelle a pu être l'angoisse, quel est le stress de certains candidats. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que on est encore dans le temps de l'action, et on l'est jusqu'au 21 septembre pour accompagner tous les candidats pour qu'ils trouvent une formation. Et puis, il y a le temps du bilan que la ministre s'est engagée à organiser avec les acteurs pour voir quelles sont les évolutions à apporter.
Est-ce que la question d'une hiérarchisation des vœux, Lila Leba, comme c'était le cas dans APB, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez remettre sur la table ?
En tout cas, c'est une vraie question de permettre aux étudiants effectivement de réduire ce temps d'attente, même ce temps d'affectation, puisque pour le coup, quand on attend même le 21 septembre, dans la plupart des universités et des écoles et des
BTS,
la rentrée est faite. Là, dans les trois quarts des universités, les réunions de pré-rentrée ont lieu cette semaine et la semaine prochaine. Donc il y a déjà des jeunes qui loupent ces moments-là qui sont importants, notamment pour les primo-arrivants, pour ceux qui arrivent, pour pouvoir permettre d'avoir les codes de fonctionnement à l'université et de pouvoir avoir des informations sur comment se passe son année. Donc il y a un enjeu, en tout cas, effectivement, à réduire cette période qui est extrêmement anxiogène pour les lycéens ou les étudiants en orientation. Après, la question, c'est comment, effectivement, on ne met pas en place un système qui est complètement figé et qui demande à des jeunes, au mois de février, de se décider définitivement sur leurs vœux. Donc je pense qu'on peut avoir un système qui fonctionne différemment, avec une hiérarchisation qui peut être aussi beaucoup plus souple que ce qui a été le cas sur APB, même si sur APB, je précise, on pouvait refuser un vœu ou mettre en attente un vœu également. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a un autre système qui a à réfléchir.
Jérôme Teilhard, il vous reste quelques secondes pour conclure, si vous le souhaitez.
Moi, je crois qu'on a des évolutions à faire pour entendre, et on entendra les acteurs, mais je pense qu'il faut revenir. On a voulu donner le dernier mot à l'étudiant. C'est ça, le principe fondamental de Parcoursup, et qu'il puisse être accompagné.
Merci Jérôme Teilhard. Merci à vous également, Lila Leba. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est déjà terminé. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et la réalisation aujourd'hui, Laurent Salerno. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr, également sur les plateformes mobiles avec l'appli RFI Pure Radio. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.